Ce matin, je vais commencer avec une question. La question, c'est, êtes-vous parmi les 9 autres? Si vous trouvez la réponse, vous avez trouvé le titre de ce message, êtes-vous parmi les 9 autres? Il y a quelqu'un qui a trouvé? Les 10 lépreux. Oui, donc... C'est ça. Donc, le titre du message, c'est « Êtes-vous l'un des 9 autres? » Au cours des dernières prédications, vous avez voyagé avec moi sur la route de Jérusalem lors du dernier voyage du Seigneur Jésus vers la croix. Bien qu'il agisse d'une ligne droite vers la croix, Jésus rencontrait et prêchait et guérissait les gens tout au long du chemin. Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, dit Matthieu 4, 23. Et aujourd'hui, nous examinerions de plus près un rapport donné par le médecin Luc de Jésus guérissant des lépreux sur son chemin vers Jérusalem. Nous avions lu et entendu cet incident dans la vie de notre Seigneur de nombreuses fois. Mais maintenant, nous allons consacrer quelques minutes à réfléchir à une vertu chrétienne qui est négligée et oubliée de ces derniers jours. Nous vivons une période difficile. Il n'est pas étonnant que nous trouvions dans une génération ingrate. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le premier 5 versets, je vais lire pour vous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en est fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est le conseil de Paul à Timothée. Il mentionne parmi les autres péchés l'ingratitude. Il dit que quand les hommes seront ingrats. Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle j'ai choisi d'étudier ce court passage aujourd'hui. Cette période de l'année, d'octobre à novembre, dans certains pays comme les États-Unis et le Canada, les chrétiens célèbrent traditionnellement une fête appelée Thanksgiving pour remercier Dieu pour la bonne récolte et toute autre bénédiction de la vie depuis des siècles. Celle-ci s'est peu à peu transformée en festivité à valeur commerciale, comme toutes les autres fêtes commerciales, oubliant le vrai sens de la célébration. Dans notre pays, Halloween et le Black Friday ont commencé à marquer la saison. Quoi qu'il en soit, ces fêtes nous rappellent de rendre grâce à Dieu. Et pourquoi, juste un jour, nous devrions cultiver l'habitude de remercier Dieu le 365 jours de l'année et tous les jours de notre vie. Avec la saison de Thanksgiving comme toile de fond, nous examinerons cette vertu chrétienne de gratitude. Commençons par notre passage à Luc 17, Évangile de Luc, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'à 19. Évangile de Luc, chapitre 17. À partir du verset 11, « Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc, ça, c'est notre passage. C'est très court comme histoire. Et c'est un incident qui est passé juste quelques jours avant que Jésus meure sur la croix. Donc, il est en train de partir vers Jérusalem. La lèpre et ses variantes sont mentionnées 68 fois dans la Bible. Ben, aujourd'hui, peut-être personne ne connaît la lèpre, mais dans la Bible, c'est mentionné 68 fois. Le nombre de références à lui seul vaut la peine d'être compris. En ce qui concerne le récit de 10 lépreux dans Luc 11, comprendre la lèpre nous aide à mieux comprendre la maladie. Et nous voyons ici le désespoir des lépreux lorsqu'ils sont venus à Jésus. Comme ce fut dramatique et merveilleux pour Jésus de les guérir, comme il aurait dû être reconnaissant quand Jésus les a guéris. Avec ces simples mots, Luc commence, « Il fut accueilli par 10 lépreux qui se tenaient à distance. » Luc révèle l'alignation déchirante des lépreux de cette période. Je ne sais pas combien de personnes entre vous avez déjà vu un malade qui est atteint de lèpre. Comprendre la maladie, la lèpre, les effets physiques de la lèpre. La lèpre commence par des petites taches rouges sur la peau. En peu de temps, les taches ont grandi et sont devenues blanches, avec un aspect brillant et écailleux. Ensuite, les taches deviendraient des plaies sales et des ulcères en raison de mauvaises irrigations sanguines. Les plaies et les ulcères se propageaient jusqu'à ce qu'ils recouvrent le corps entier. Les lépreux perdraient la sensation dans les zones touchées et sans douleur comme système d'avertissement, ils subiraient d'autres blessures. La lèpre, c'est essentiellement une maladie qui touche les nerfs. Ils peuvent se tordre une cheville mais continuent à marcher, ce qui aggrave la déchirure des ligaments. S'ils devraient cuisiner avec le feu, ils ne sauraient pas s'ils approchaient trop près et se brûlent. Parce qu'ils ont été forcés de vivre loin de la civilisation, dans l'environnement insalubre, ils pourraient ne pas remarquer, et je ne plaisante pas, si des rongeurs les mangent pendant leur sommeil. Le corps commencerait à se désagréger. Les cheveux tomberaient, les ongles des mains et des orteils se détacheraient et tomberaient. Les articulations des doigts et des orteils pourrissaient jusqu'à ce que les doigts et les orteils eux-mêmes tombent. les gencives rétrécissaient jusqu'à ce que les dents tombent, la maladie affecterait le larynx, produisant une qualité grinçante dans la voix du lépreux. Comme les lépreux avaient des parties de leur corps en décomposition, ils dégageaient une odeur terrible. Et ce ne sont là que les conséquences physiques. Il y a entraîné aussi des conséquences spirituelles, mentales et émotionnelles. Spirituellement, parce que les lépreux étaient impurs, ils ont été retirés de la vie religieuse de la nation d'Israël. À Dieu a la possibilité d'adorer à nouveau le Seigneur en communauté. Mentalement, la lèpre était terrible parce qu'il n'y avait pas de remède. Les lépreux ont dû vivre avec la réalité que leur condition ne ferait qu'empirer. Aussi terrible qu'a été cette semaine, la semaine suivante serait encore pire et la semaine suivante encore pire. Et émotionnellement, la lèpre est très terrible parce qu'elle signifiait la fin de la relation humaine. À moins que vous ne vouliez risquer que votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs et vos amis contractent la lèpre, vous restez à l'écart d'eux. Toute souffrance est soulagée par l'amour et le soutien de la famille et des amis, mais les lépreux ne pourraient même pas en faire l'expérience. Imaginez un instant que vous ne puissiez plus jamais embrasser votre conjoint, serrer vos enfants et vos parents dans vos bras. Parce que les lépreux étaient comme des morts vivants qui ne pouvaient plus avoir de relations avec les autres. Les envoyer hors de la ville était des funérailles pour des vivants. Les lépreux sont rejetés par le reste de la société. Les seules relations qu'il avait étaient avec des autres lépreux. Mais même cela était douloureux car ces relations leur rappelaient constamment le sort qui les attendait. Ils devaient regarder d'autres lépreux pourrir en sachant que la même chose leur arriverait. C'est terrible, n'est-ce pas? Et le lépreux, c'est une image de péché aussi. Dans la Bible, la maladie, c'est une image de péché. Parler, entendre parler de la lèpre, c'est horrifiant et effrayant. Parfois, les détails sont même sanglants. Mais nous avons besoin de connaître la maladie. Il est essentiel de parler de cette maladie pour comprendre le miracle et la guérison. Comprendre le lépreux guéri et sa gratitude envers Jésus. Comprendre les 9 autres lépreux ingrats qui ont également été guéris. Le péché est aussi pire que cette maladie que tue une personne alors qu'elle est encore en vie. Nous lisons dans nos Bibles en quelques mots que Jésus guérissait les lépreux et nous pouvons simplement nous tourner vers d'autres passages de l'Écriture sans nous arrêter pour comprendre. Parlant de les lépreux, leur état les éloignait de leur proche et du reste de la société. Et c'est pourquoi nous lisons ici que, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Donc ils ont vu Jésus passer par la ville de Samarie. Et tenant à une certaine distance, ils crient d'une voix forte, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Jésus a récompensé leur foi en leur disant d'aller se montrer au sacrificateur. Cela signifiait que lorsqu'ils arrivèrent au sacrificateur, ils auraient été guéris de la lèpre. Le sacrificateur ou prêtre n'avait pas le pouvoir de les guérir, mais c'est lui qui les déclarait purs. C'est à l'époque que Dieu l'a désigné, le sacrificateur, comme une autorité qui peut vérifier que quelqu'un qui est guéri de la lèpre, obéissant la parole du Seigneur, les lépreux se dirigeaient vers la demeure des sacrificateurs. Et en chemin, ils furent miraculeusement purifiés de leur maladie. Et dans la parole, verset 15, regardez au verset 15 de Luc chapitre 17. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ils avaient tous la foi d'être guéris, mais un seul sur 10 s'est retourné pour remercier le Seigneur. Dans cette histoire, nous ne parlons pas de foi. Ils avaient tous la foi pour être guéris. Mais un seul parmi les 10, il retourne pour rendre grâce, pour remercier le Seigneur. Celui-ci fait intéressant, était un Samaritain. L'un des voisins méprisés du peuple juif avec lequel il n'avait aucune relation. Je suis sûr que les 9 personnes qui ne sont pas retournées à Jésus après leur guérison ont été submergées par l'opportunité de passer du temps avec leurs amis et leurs familles dont elles avaient été séparées pendant si longtemps. On peut imaginer leur joie de pouvoir se retourner à la maison, de pouvoir se retourner dans la ville, de se pouvoir montrer qu'il était vraiment guéri. La gratitude reste un sentiment merveilleux si son véritable pouvoir n'est libéré par l'expression. On peut avoir beaucoup de gratitude dans le cœur si on ne dit pas. Ont-ils oublié le psaume 103 de David? David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Maintenant, voyons l'ingratitude des 9 autres lépreux qui ont été également guéris par Jésus. Le ratio d'ingratitude dans ce passage est de 9 sur 10. La plupart des gens dans ce monde d'aujourd'hui sont ingrats. Je pense que nous vivons dans le monde pour expérimenter ce problème. La plupart des gens dans ce monde d'aujourd'hui sont ingrats, même envers les bénédictions générales de Dieu. Dieu n'est reconnu nulle part comme le Créateur, comme le Dieu souverain ou celui qui va juger le monde. Il pense que tout ce qu'il obtient et possède est un dû et un mérite. Mais nous entendons souvent parler que c'est un mérite. J'ai obtenu par mon propre mérite, parce que j'ai droit d'avoir ces choses. Tout le monde parle de son mérite et de ses droits. Cette attitude charnelle et mondaine chez les incroyants n'a pas épargné même les enfants de Dieu. Je ne sais pas, la semaine dernière, combien de fois nous avons plaigné ou nous avons murmuré contre la pluie. La pluie, c'est une bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui envoie la pluie. Et juste avant 2-3 mois, on plaignait. Et quand vous tournez l'actualité, on parlait de niveau d'eau qui est très bas et à sécheresse et tout ça. Mais s'il pleut pendant 4 jours, on commence à plaigner, on commence à maudire le temps. Si nous pouvions nous demander si nous sommes toujours reconnaissants envers Dieu, la réponse serait non. Et nous allons regarder ce que dit la Bible de l'ingratitude. Dans la Bible, nous trouvons une autre personne qui n'était pas reconnaissante envers le Père. C'est le fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Bien que la majeure partie de notre attention soit attirée par le fils cadet dans l'histoire, le personnage de l'aîné mérite d'être remarqué. Il était toujours avec le Père, mais dans son cœur, il était assez loin de son père. Il possédait tout dans la maison de son père, mais disait qu'il n'avait rien reçu de son père. Écoutez ce qu'il a dit à son père dans Luc 15. Je vais lire à partir des versets 28 jusqu'à 31. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. On parle de fils aîné. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, et pour lui que tu as tué un veau gras, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. » L'ingratitude envers Dieu marquait le monde païen de l'époque de Paul. Il prédit qu'elle serait aussi caractéristique des derniers jours, de première chrétienne, l'ère chrétienne, que de premier siècle. Tournez avec moi en Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Nous allons lire à partir de verset 18 jusqu'à 23. Romains chapitre 1. Nous allons lire à partir de verset 18 jusqu'à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, sa voix qu'à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Regardons verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous savez, l'homme, il est créé pour glorifier Dieu. L'homme, il est créé pour rendre grâce à Dieu. Il est créé pour faire les actions de grâce. Et quand l'homme, il ne fait pas, quand il cherche sa propre gloire, comme l'homme, il est fait pour glorifier Dieu, s'il ne glorifie pas Dieu, il va glorifier certainement autre chose. Il devrait créer les autres dieux pour lui. Soit c'est lui-même, sinon des autres idoles. Et verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Mais il connaissait Dieu. L'homme, il connaît Dieu. Il connaît qu'il y a un Dieu à qui il devrait remercier, à qui il devrait rendre grâce. Mais quand il ne fait pas, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Dieu, il les plonge dans les ténèbres. L'ingratitude est un péché qui a des graves répercussions. L'ingratitude est un péché qui a des graves répercussions. Romains, le passage que nous avons lu, donne une description détaillée de la chute d'une personne ou d'une société. À côté de l'idolâtrie, de l'homosexualité, de toutes sortes de rébellions, il y a l'ingratitude. Le verset 21 dit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Cela nous dit que Dieu prend au sérieux la gratitude et l'ingratitude. Tant qu'une personne ou une culture reste reconnaissante envers Dieu, elle conserve une sensibilité à sa présence. La reconnaissance envers Dieu exige au moins une croyance en Dieu et l'ingratitude ne nous permet pas de nous acquitter de notre responsabilité de le reconnaître. En Proverbe, chapitre 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, nous sommes appelés à confier en l'Éternel de tout notre cœur, et de ne pas appuyer sur notre propre sagesse. Lorsque nous refusons d'être reconnaissants ou d'exprimer notre gratitude, nous devenons durs et fiers. Quand nous n'avons pas l'habitude de rendre reconnaissance, rendre notre gratitude à Dieu, notre cœur devient dur et fier. Nous tenons pour acquis tout ce que Dieu nous a donné et devenons nos propres dieux. De Timothée 3:2 décrit à quoi ressembleront les gens dans les derniers jours. Et l'une de leurs caractéristiques est l'ingratitude. Quand l'orgueil et l'autonomie deviennent à la mode, le cœur humain n'a personne à remercier. Et quand nous pensons que nous avons un sentiment d'autosuffisance, nous pensons que je suis capable de tout faire de moi-même. Je n'ai pas besoin de Dieu et nous devenons orgueilleux et nous devenions autonomes et nous pensons que nous n'avons pas à remercier à qui que ce soit. Nous devenons convaincus de notre propre suprématie et considérons tout ce que nous avons comme une juste récompense pour nos efforts. Il est sage de tenir compte des questions rhétoriques de Paul. 1 Corinthiens 4, 7 « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu n'ai reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. L'ingratitude envers Dieu n'est pas tant une cause de mal que le résultat de celui-ci. Une fois que nous avons endurci nos cœurs au point de ne plus voir Dieu comme la source de nos dons, rien n'est interdit. Nous devenons une loi pour nous-mêmes. L'une des raisons pour lesquelles la Bible prend une position si ferme contre l'ingratitude est peut-être que Dieu sait que le résultat final d'une telle arrogance est un esprit réprouvé. Lorsque nous nous rappelons souvent que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don de Dieu, comme Jacques le dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, nous nous protégeons de l'idolâtrie et de l'orgueil. La Bible parle beaucoup de la gratitude et son absence. Dieu sait comment nous sommes faits. Il nous a conçus pour prospérer lorsque nous sommes humbles, quand nous sommes obéissants et reconnaissants. Lorsque nous sommes arrogants, désobéissants et ingrats, nous ne pouvons pas être en communion avec lui, ni faire l'expérience de tout ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Jacques, dans son épître, chapitre 4, 6, il dit, « Il accorde une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu a donc inclus dans sa parole des commandements répétés sur sa gratitude, nous rappelant qu'un cœur reconnaissant est un cœur heureux. Nous devons être reconnaissants non seulement dans les situations agréables. C'est facile de dire merci quand nous recevons des bonnes choses. C'est facile d'être reconnaissant quand nous passons un bon moment ensemble. Mais aussi dans les circonstances que nous n'aimons pas. Lorsque nous avons l'intention de remercier Dieu, peu importe ce qui entre dans notre vie, nous gardons l'amertume à distance. Nous ne pouvons pas être à la fois reconnaissants et amers. Ce n'est pas que nous soyons reconnaissants pour la tragédie, mais nous pouvons être reconnaissants pour ce qui est Dieu, même au milieu de la tragédie. Regardez ce que Paul, dans sa vie, il avait une écharpe dans son chair et il a prié trois fois. Nous connaissons la réponse du Seigneur à Paul. Et Paul dit, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc ici, nous voyons que Paul, il remercie le Seigneur quand il dit que « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Je ne sais pas combien de fois nous arrivons à remercier le Seigneur pour le mal que nous avons. Il nous soutient, il nous donne la force d'endurer. Un homme dans l'Ancien Testament, il a remercié le Seigneur dans un endroit très insolite. Vous connaissez cette personne? C'est Jonas. Si vous voulez, c'est le livre de Jonas, chapitre 2. Il y a une courte prière de Jonas. Et bien sûr, il ne peut pas faire une longue prière comme être assis dans un banc de l'église. Mais sa prière était très courte, de quelques phrases. Chapitre 2, Jonas chapitre 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, je criais, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. » Et Jonas, il était encore dans le ventre de poisson. Et entre parenthèses, ce n'était pas une baleine. Hein? Souvent les gens disent que Jonas, il était dans le ventre d'une baleine. Ce n'était pas une baleine, c'est un gros poisson en tout cas. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Et son espérance en Dieu. Il dit que tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Il était toujours au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Il dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Il termine, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Mais souvent dans la prière, nous entendons que l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur. Et comme j'avais dit, c'est facile à rendre grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses. Mais quand nous sommes dans l'abîme le plus bas dans notre vie, quelle est notre attitude envers Dieu? Il peut dire que Dieu aurait pu me tuer, mais il m'a sauvé. Et c'est pourquoi je vais rendre grâce à Dieu. C'est par la grâce que Dieu l'a envoyé le poisson pour avaler Jonas. Sinon, il aurait pu couler et plonger dans l'océan. Encore un autre homme qui avait enduré plus que n'importe qui, c'est Job. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Pas après qu'il a été délivré de tout ce qu'il a subi, de toutes ces tragédies, mais au milieu de toutes ces difficultés, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et c'est le premier chapitre de Job. Nous avons encore beaucoup de chapitres. Beaucoup de ce qu'il a subi, Job. Job 1:21. Même quand tout est perdu et quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on peut dire comme le prophète Habakkuk pour remercier notre Dieu de salut. Habakkuk 3:17-18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les tables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si nous sommes attachés à des choses terrestres, si nous sommes attachés à des choses matérielles, et si notre joie, notre paix dépend de les choses matérielles, de choses terrestres. Nous serons le plus malheureux quand nous allons perdre toutes ces choses. Et si notre bien est l'Éternel, si notre délice est l'Éternel, même si nous perdrons toutes ces choses, on peut dire que toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Maintenant, les questions, mais qu'est-ce que nous tenons précieux pour nous dans notre vie? Et notre modèle suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était Dieu et n'avait pas à rendre grâce pour quoi que ce soit. Mais il le faisait souvent. Jésus nous a donné un exemple remarquable à bien des égards. Mais l'un d'entre eux, c'était l'action de grâce. C'était un homme qui louait le Père de tant de façons. Il a remercié alors qu'il était entouré de milliers de personnes affamées et de multitudes de nourriture, à multiplier de la nourriture. Il rendait grâce à Dieu d'avoir exaucé sa prière pour la résurrection de Lazare avant que Lazare ne ressuscite du tombeau. Ça, c'est des choses que, quand le Seigneur il a parlé publiquement, il a remercié le Seigneur pour glorifier son nom. Il a remercié pour la mort horrible qu'il a dû subir sur la croix alors qu'il rompait le pain avec les douze. Nous voyons dans 1 Corinthiens 11, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Quand nous devrions sacrifier des petits sacrifices, est-ce que nous rendons grâce à Dieu? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? La gratitude est une vertu merveilleuse que nous devons nous cultiver dans notre vie. Il y a tellement de raisons d'être reconnaissant. Nous chantons « Compte les bienfaits de Dieu ». Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Puisque nous connaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur, et Seigneur, notre cœur et notre bouche ont besoin de lui exprimer notre gratitude. Le Seigneur est tout à fait digne de notre amour, de notre louange et notre adoration et notre reconnaissance. Nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants à cause de lui. Même lorsque les choses tournent au vinaigre, nous pouvons toujours nous tourner vers le Seigneur avec un cœur reconnaissant. À travers les hauts de montagne et des bas des vallées, Dieu promet de ne jamais nous quitter. Nous le remercions pour sa promesse. En Romains 8, 28, nous lisons « Toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Thessaloniciens 5, 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, rendre grâce, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut qu'on rende grâce en toutes choses. Lui-même, il était la modèle. Il nous a montré comment rendre grâce à Dieu pour toutes choses, pour de bons et de mauvais. Regardez ce que Paul il dit dans son épître aux Colossiens. Alors, je vais lire ce passage, Colossiens 3, 15 à 17. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parfois, le cantique que nous chantons, ça nous aide à rendre grâce à Dieu, faire monter nos actions de grâce. Et parfois, nous manquons les mots, mais il y a des saints qui sont écrits, des beaux cantiques, ils nous aident à louer le Seigneur. C'est pourquoi quand l'Église loue le Seigneur, nous devrions louer avec l'Église. C'est la manifestation de notre gratitude, c'est la manifestation de notre reconnaissance pour ce que le Seigneur il a fait pour nous. Psaume 105, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Le Nouveau Testament accorde beaucoup d'importance à la question de l'action de grâce. Et Paul, il fait beaucoup d'actions de grâce. Il montre ses reconnaissances dans tous ses épîtres, de plusieurs fois. Et finalement, rendre grâce à Dieu de n'importe où. Donc nous avons vu l'exemple de Jonas. Et Jonas, il a fait une prière. Mais un autre homme, Joseph, qui était dans la prison, oublié par tout le monde, par sa vie, il a remercié le Seigneur. Par sa vie, il a montré combien il est reconnaissant. Il a mentionné le nom de Dieu pendant son séjour dans la prison en Égypte. Et nous voyons comment Paul, apôtre Paul et Silas, ils sont fait des actions de grâce dans la prison. Et il était lié, mains et pieds liés dans la prison. Il n'y avait peut-être pas de lumière, il faisait froid, humide, mais tous les deux, ils chantaient fort. Ils remerciaient le Seigneur. Rendre grâce à Dieu demande d'humiliation. D'humiliation de soi. Vous vous rappelez la mère de Jésus, Marie? Et ce n'était pas de bonnes nouvelles pour Marie. Marie, c'était une jeune fille vierge. Elle n'était pas mariée. Elle était fiancée. Mais l'ange, il vient, il dit que voilà, ce n'était pas la bonne nouvelle. Mais Marie, dans son cantique, comment elle loue le Seigneur pour ce qu'elle va subir. Donc, rendre grâce à Dieu demande d'humiliation de soi. Et Jésus lui-même, il est notre exemple. Comment il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, d'esclave. Comme on voit dans Philippiens. Et rendre grâce à Dieu demande de sacrifice. Nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, c'est une femme stérile. Elle attendait un enfant et elle a subi la moquerie, mais elle pleurait dans l'église. Et elle disait, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te rendrai cet enfant à ton service. Et quand elle a eu Samuel, Anne a rendu ce qu'elle a obtenu du Seigneur. Donc, remercier le Seigneur, ça demande le sacrifice. Et ce n'est pas des simples mots. Ce n'est pas des simples paroles. Elle a rendu à Dieu ce qu'elle a reçu de Dieu. Et rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur, c'est la femme qui brisait la bouteille de parfum. Ça lui a coûté. Donc, rendre grâce, ça devrait nous coûter quelque chose. Qu'est-ce que ça nous coûte? Aller au temple, aller participer dans l'adoration dans l'église du Seigneur. Qu'est-ce que ça nous coûte? Si ça ne me coûte rien, je devrais poser la question. Qu'est-ce que ça me coûte? Et cette femme qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses larmes, et essuyé avec ses cheveux. Ça demande l'humiliation, ça demande d'être à pied de Jésus. Vous voyez le lépreux qui était guéri, il revient sur ses pas, il tombe à sa face contre la terre, aux pieds de Jésus. Ça, c'était la place pour montrer notre reconnaissance, c'est au pied de Jésus qu'on peut montrer. Rendre grâce, ce n'est pas uniquement par des paroles. On peut avoir de beaux paroles, là, belles paroles. Les mots, ce n'est pas une affaire, mais rendre grâce, c'est l'affaire d'une vie. Vous savez, dans certaines cultures, on n'a pas d'habitude de dire merci pour toutes choses. Mais en France, on dit merci pour toutes choses. C'est une bonne chose. Mais certaines cultures, mais on ne dit pas merci, mais on a 1000 façons de dire merci. On a d'autres façons de dire merci. Et on dit ça pendant quelques minutes. Mais on ne dit pas le mot merci. Mais nous aussi, rendre grâce, ce n'est pas uniquement avec des paroles, mais par une vie, notre attitude de notre cœur. Comment on vit une vie pour remercier le Seigneur? Est-ce que notre vie, c'est un parfum de bonne odeur qui est versé au pied de Jésus? C'est à nous de poser les questions. Et est-ce que nous sommes ingrats ce matin envers le Seigneur pour ce qu'il a fait? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu parce qu'il est sorti victorieux de la mort? Est-ce que nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Nous avons ce matin beaucoup parlé de la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour tout ce qui est Dieu et pour tout ce qu'il fait pour nous? Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes à tes pieds ce matin pour te rendre grâce. Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu es pour nous. Seigneur, tu as tant fait pour nous, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Tu étais dans la gloire auprès du Père. Mais Seigneur, tu as décidé de descendre ici-bas sur la terre pour nous donner ta vie. Nous te remercions, Père, parce que tu as décidé de donner ton Fils unique pour nous. Seigneur, comment pourrons-nous te remercier? Seigneur, nous te demandons pardon si nous ne sommes pas reconnaissants pour des choses que nous avons reçues de toi. Si nous sommes inconscients des choses, rends-nous sensibles, Seigneur, dans notre esprit, et que notre vie soit une vie, un parfum de bonne odeur. Seigneur, aide-nous à comprendre cette vie chrétienne et comment vivre cette vie chrétienne pour ta gloire. Seigneur, nous n'avons rien en nous-mêmes pour être fiers, pour nous glorifier. Mais tout ce que nous avons, Seigneur, ça vient de toi. Aide-nous à vivre pour ta gloire seule. En ton nom, nous prions, et pour ta gloire seule. Amen.